La crise ne nous rend pas seulement libres d'imaginer d'autres modèles, un autre avenir, un autre monde. La crise nous y oblige. Nous n'avons pas le choix. Mais dans les circonstances d'aujourd'hui, ce rapport n'a pas une importance technique, il a une importance politique.
Mais oui, cette voix, vous l'avez reconnue, le président Sarkozy. 14 septembre 2009, le chef de l'État reçoit le rapport Stiglitz-Sen. Deux prix Nobel qui ont dirigé les travaux d'une commission internationale, 22 économistes. Objectif, repenser la performance et le progrès au-delà du seul chiffre du PIB. Utilité, popularité, notoriété, 10 sur 10. Postérité, 0. Ce rapport qu'a-t-il changé au monde d'après ? Évidemment, on souhaite un tout autre avenir à celui qui sera rendu fin 2020 au président Macron. Oui, une nouvelle commission internationale, 26 économistes installés hier par l'Élysée. On a là 3 prix Nobel, on a de la sommité américaine, on a de la pensée française. Tirol, Blanchard, Krugman, Summers, Boone, Cohen. On a du Chavagneux validé autant que du Le Chypre compatible. Est-ce qu'ils sont les mieux placés pour penser en dehors de la boîte ? Ça, je ne sais pas. En revanche, je lis qu'Esther Duflo, française, femme, jeune, prix Nobel 2019, ne serait pas sur la liste. Alors là, je dis dommage. Et puis quand même, leur mission, hein, ces économistes, éclairer l'exécutif face à 3 défis. Le climat, les inégalités, le vieillissement. Bon, on a le droit de penser qu'il y a déjà pas mal de lumière sur ces sujets, pas mal de recommandations aussi, avec le Conseil d'analyse économique, avec France Stratégie. Ça n'est pas comme le virus, là, le Conseil scientifique avait tout à nous apprendre. Non, sur le climat, sur les inégalités, sur le vieillissement, ce qui nous manquerait le plus, ce serait plutôt la volonté politique, et pas seulement en France.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, c'est le Magéco XXL. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec Coy Nguyen, le réalisateur, avec Valentin Pérez, l'attaché de production, avec Charles Pellabon qui nous accompagne à la technique, et c'est Jean-Baptiste Audibert qui nous a concocté la programmation musicale. Je vous donne des jalons. À 9h45, nous parlerons des plateformes numériques et de leurs travailleurs avec Sonia De Villers et son invité, le chercheur Antonio Casilli. À 10h20, rendez-vous avec Brice Rocher, le PDG du groupe Rocher, le petit-fils d'Yves Rocher. Et puis avec Jean-Jacques Salin, le patron de Zara France, entre autres. Est-ce que les Français ont envie de consommer ? Vous savez bien que la consommation, c'est un des moteurs de la reprise. On leur posera la question. Sandrine Foulon sera aussi là en deuxième heure, ma vie au boulot. Et puis la culture à l'heure du déconfinement. Nous serons en ligne avec Stéphane Hillel, le directeur du Théâtre de Paris. Mais tout de suite, auditeurs, auditrices, le standard vous est ouvert, 01 45 24 7000. C'est le débat avec nos débatteurs, Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques. Bonjour.
Alors bonjour Alexandra, on est très content de revenir en studio.
Et bonjour Emmanuel Le Chypre de BFM Business.
Ah, ça sent un peu l'hôpital, mais on est content d'être là quand même.
On est très content de vous retrouver. Bonne nouvelle sur le front sanitaire, mais les bonnes nouvelles éco, c'est pour quand ? Auditeurs, auditrices, nous attendons vos questions du bon, du mauvais. Que va-t-il se passer après le 2 juin ?
« 28 mai 2020. »«
Bonjour à tous. »
Édouard Philippe.
« Si je devais résumer l'ensemble des données qui vont vous être présentées... »«
Premier ministre. »«
Je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. »« Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement. »« Et nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'Île-de-France, la Guyane et Mayotte. »« Dans ces départements, nous allons qualifier de départements orange. » Le déconfinement sera, dans les 3 semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. Au cours de cette phase 2, la liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts, la réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange, la réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes, la limitation des regroupements à 10 personnes. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Je voudrais également insister sur l'urgence économique et sociale qui vient, ou en vérité sur l'urgence économique et sociale qui est déjà là. Le plan de confinement nous a obligés à mettre à l'arrêt une très grande partie de notre économie. Nous avons su prendre les mesures de chômage partiel pour limiter l'impact de ce choc sur les entreprises et sur leurs salariés. Mais les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent l'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. Gardons en tête que s'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique.
L'impact d'une récession historique. Les annonces d'Édouard Philippe, c'était jeudi, avant-hier. Emmanuel Lechypre, ça c'est le grand déconfinement, ça y est, le 2 juin c'est le grand déconfinement.
Alors oui, puisque la province finalement retrouve quasiment une vie normale, à quelques exceptions près, on pense au cinéma. Ce qui est intéressant du point de vue économique dans l'allocution d'Édouard Philippe, c'est que il n'y a pas eu véritablement d'annonces techniques, mais il y a eu quand même d'abord ces annonces de calendrier pour ce secteur qui attendait tant, hôtellerie, restauration, et puis quand même le message qui est très fort, c'est un message très rassurant sur le plan sanitaire. C'est un message dans lequel le scénario catastrophique qui pouvait être envisagé, celui d'une deuxième vague qui aurait fait que l'activité aurait adopté, vous savez, ce fameux profil en W par exemple, hein, c'est-à-dire chute de l'activité pendant le confinement, ça redémarre, et puis reconfinement, rechute de l'activité. Aujourd'hui, manifestement, ce scénario-là peut au moins être exclu.
Donc, ou atténué, en tout cas.
Donc, il y a beaucoup de... Atténué. Moi, j'ai pour avoir discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise, il y en a beaucoup qui se sont sentis soulagés, qui se disaient, est-ce que c'est le moment de recruter? Est-ce que c'est le moment d'investir? J'avais prévu des dépenses, etc. Mais si on retourne en confinement, qu'est-ce qui va se passer? Là, je pense que l'horizon, au-delà du secteur de l'hôtellerie-restauration, s'est quand même dégagé pour beaucoup de décideurs et aussi pour les ménages.
Christian Chavagneux, vous l'avez ressenti de la même manière, cette allocution?
C'est plutôt le petit déconfinement, hein, c'est-à-dire qu'on attendait des nouvelles sanitaires, comme dit Emmanuel, elles sont plutôt bonnes. Alors nous, on n'est pas médecins, hein, mais c'est vrai que tout ce qu'on entend dire du côté des médicaux, bah, c'est plutôt que ça se passe plutôt bien, donc avec tous les guillemets qu'il faut. Par contre, l'autre nouvelle positive, c'est que pour 3 semaines après, pour vers le 21 juin, là, ce sera vraiment le grand déconfinement.
Le total est là.
Et il semblerait, encore, il faut mettre plein de guillemets, mais il semblerait que on soit quand même sur la bonne voie. Et peut-être, alors on va en débattre sûrement ce matin, mais que peut-être, du coup, on pourrait peut-être avoir une reprise un peu plus forte que ce qu'on disait jusqu'à présent.
Ah, vous allez jusque-là. Alors, Emmanuel Lechypre, est-ce que c'est votre perception? Est-ce que, finalement, le Premier ministre, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même ce message inquiétant. On était dans l'urgence sanitaire, voilà, ce nouveau front qui s'ouvre. Et c'est vrai qu'on a tous dit ces derniers temps qu'il allait avoir des mauvaises nouvelles. Est-ce que vous pensez que le pire est derrière nous?
Alors, oui, statistiquement, le pire est derrière nous. C'est pour ça quand même que le Premier ministre, il n'a pas un discours qui est quand même très opportun sur le plan, quand il dit c'est la plus grave crise, etc. On l'a déjà dit, on en a déjà débattu. Non, ça n'est pas le côté spectaculaire de l'effondrement du PIB qui est le seul critère pour dire qu'une crise est très grave ou pas. C'est pas vrai. Ce qui fait la gravité d'une crise, c'est d'abord sa durée, hein, et pas sa violence. Si on en sort très vite, regardez, rappelez-vous le krach financier de 1987. On a cru que c'était l'effondrement. En quelques mois, ça a été oublié, hein. La crise, encore une fois, elle n'est pas venue de l'effondrement des banques, elle n'est pas venue de l'effondrement de l'immobilier, il n'y a pas eu d'appauvrissement majeur de tout un tas d'agents économiques. Donc oui, il a raison. Et les chiffres publiés d'ailleurs par l'INSEE cette semaine sont assez en trompe-l'œil. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le PIB a baissé de 5,3% au premier trimestre, mais de 20% au deuxième. Le deuxième, c'est maintenant, c'est en ce moment. Donc on se dit, oh là là, on est en pleine tempête économique. Mais ça, c'est une illusion statistique. Elle est très simple à comprendre. Au premier trimestre, il y a eu 13 semaines, dont 2 en confinement. Dans les semaines de confinement, on tournait à 60-65% des capacités normales de l'économie française. Au deuxième trimestre, les 7 premières du trimestre, deuxième trimestre, 13 semaines aussi, mais 7 semaines de déconfinement.
De confinement. Et
pas de confinement.
Merci.
7 semaines, je m'y perds. 7 semaines de confinement contre 2 au premier trimestre. Donc vous voyez bien que mécaniquement, quand vous avez 2 semaines à 60% des capacités et 7 semaines de l'autre côté, bah, l'activité globale sur le trimestre, elle est en effondrement. Mais la réalité, c'est que le creux de l'activité, il a été atteint fin mars, début avril. Et que depuis, on remonte progressivement. Moi, j'ai tout un tas d'indicateurs que je pourrais vous donner, où on retrouve des niveaux de capacité. Je vous en donne un seul qui est crucial. La logistique. statistiques, le nombre de paquets de colis livrés en France, on est à moins 10% seulement aujourd'hui, là, enfin hier, cette semaine, on est à 10% seulement en dessous du niveau normal d'activité. Au fin mars, début avril, on était à moins 50%. Le commerce tourne à 90% de ses capacités. Je veux dire, on a plein de secteurs où on est en train de remonter en puissance petit à petit.
Alors c'est vrai qu'on a eu des très Christian, on a eu des chiffres qui nous ont impressionnés cette semaine. On a eu le chiffre de l'emploi, on a eu en effet le chiffre de la richesse du PIB qui a chuté. Vous dites vous aussi que c'est une illusion statistique, ça reflète que le confinement.
C'est pas une illusion, c'est la réalité de ce qui s'est passé dans l'économie. Mais je suis assez d'accord avec Emmanuel, c'est la réalité d'hier. Moi, ce matin, j'ai plutôt envie d'être optimiste. Alors je mésestime pas les difficultés des ménages qui ont perdu de leurs revenus, qui ont du mal à payer les factures. Je ne m'estime pas tous ces gens de loterie, restauration, du spectacle, tous ces secteurs qui sont encore complètement étranglés. Les difficultés, elles ne sont pas terminées, c'est sûr. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on peut avoir quelques petits sentiments d'optimisme. Regardez du côté de la consommation des ménages. Quand Emmanuel dit la logistique, en fait, elle est juste en dessous de son niveau d'avant la crise. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens recommencent à acheter des choses et recommencent, les entreprises comme les ménages recommencent à consommer. Du côté de la demande des ménages, les ménages ont dit, l'INSEE nous dit que les ménages nous disent qu'ils sont au sommet de leur épargne et que ça va, quoi. Il faudrait.
On a économisé tous 60 milliards d'euros, dit la Banque de France.
55-60 milliards. Et que c'est surtout le sentiment des ménages qui disent, bon, on en a trop, on est prêt à dépenser. Quand on regarde, parce qu'on n'est pas les seuls à déconfiner, les autres pays européens ont déconfiné, les Français consomment beaucoup plus vite que les autres Européens. Donc on est décalé par rapport aux autres. D'habitude, on regarde la Chine, parce qu'évidemment, la Chine a confiné la première, puis elle a déconfiné la première, et là on dit, oh là là, en Chine, regardez l'offre, ça va vraiment être le profil en V, ils ont chuté, ils sont repartis à fond, du côté de la demande, ils sont très prudents. Sauf qu'attention, nous on a une grande différence avec la Chine, c'est que les Chinois, ils n'avaient pas de chômage partiel, ils n'ont pas eu de mécanisme pour préserver leurs revenus. Nous, en France, évidemment, il y a toujours des ménages avec des difficultés, mais globalement, on a plutôt préservé les revenus, et on a l'impression que les Français, avec ce début de déconfinement, ont envie de consommer, encore une fois, de consommer plus vite que les autres pays européens. Donc du côté de la consommation des ménages, peut-être une bonne surprise.
Parlera en deuxième heure avec le patron du groupe Rocher, Yves Rocher, puis le patron d'Inditex, Sarah, tout ça. On ira voir les petits commerces, vous verrez. Oui, on leur demandera aussi leur avis, peut-être.
Et puis, ça, c'est la consommation des ménages. Et puis, il y a une autre partie de la demande qui est importante. Et puis, c'est l'investissement des entreprises. Ce que vont faire les chefs d'entreprise, ceux qui vont décider leur attitude psychologique, ça va être clé pour la reprise. Et là, alors, il faudrait peut-être qu'on se rapproche de la Banque de France. Moi, j'ai été très surpris par un chiffre que la Banque de France nous a donné cette semaine. La Banque de France nous a donné les chiffres des crédits aux entreprises cette semaine. Et donc, on a quoi ? Les crédits de trésorerie, plus 10% en mars, plus 17% en avril. C'est normal. On sait que les boîtes ont besoin de trésorerie. Mais les crédits d'investissement, plus 7,8% en mars, plus 7,7% en avril, une croissance largement supérieure sur un an à décembre, janvier, février, d'avant le confinement. Que veut dire ces chiffres ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, je ne sais pas exactement. Est-ce que les entreprises ont eu besoin d'investir en informatique, qu'il y a eu des choses comme ça ? Ou est-ce que, finalement, les chefs d'entreprise se disent, attendez, le confinement, il a été là. J'ai plutôt géré le fait que je conservais mes salariés. Et comme à moi, ça va repartir, je vais pouvoir en bénéficier encore. J'ai une partie de ma trésorerie qui a été faite soit par le plan, soit par l'État pour mes salariés. Finalement, l'avenir n'est pas si noir que ça. On est attentiste et c'est normal. À leur place, je le serais bien. Mais peut-être qu'il y a des perspectives et donc les chefs d'entreprise investissent. Il faudrait creuser ce 7-7, ce 7-8, mais il est supérieur à avant le confinement. Et moi, ça m'a surpris de manière positive.
Emmanuel Le Chip, et puis après moi j'ai plein de questions quand même. Non, vous me faites beaucoup réagir en tout cas. Moi.
Typiquement sur l'emploi, les chiffres parus cette semaine.
Ah oui, sur l'emploi, on a envie de vous dire, mais attendez, voilà. Vous êtes en train de rêver là, Emmanuel Le Chip.
Effectivement,
on dit qu'il va y avoir la casse sociale.
On regarde toujours la catégorie A à Pôle emploi, 843 000. Il faut se rappeler qu'un mois normal, c'est quelques milliers, ou dans les cas catastrophiques, quelques dizaines de milliers en catégorie A.
Mais pourquoi les demandeurs d'emploi sans aucune activité.
Ceux qui n'ont pas travaillé du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a les demandeurs d'emploi, ceux qui sont dans les catégories B et C, qui sont ceux qui ont travaillé quelques heures ou quelques dizaines d'heures. Bah, ceux-là, ils ont basculé massivement en catégorie A, parce qu'avec le confinement, ils n'ont pas travaillé du tout. Donc, si vous regardez juste au-delà de cet effet de vase communicant, l'augmentation d'inscrits à Pôle emploi, et encore une fois, on ne parle pas de chômeurs, c'est très important, d'inscrits à Pôle emploi, elle n'est que de 200 000, c'est-à-dire 3,4%. Et là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que ça ne s'explique pas par un afflux de bataillons de gens licenciés. C'est que, comme les entreprises ont marqué une pause sur les recrutements, les gens sont restés inscrits à Pôle emploi.
Ils sont pas de sortie, ok?
Mais les nouveaux inscrits, c'est moins 20% quasiment. Ce que je veux dire par là, par rapport au message d'optimisme de Christian, c'est que oui, on a une situation qui est totalement exceptionnelle, totalement inédite et qui donne des chiffres totalement terrifiants. Mais ça veut dire que ça n'est pas joué. Moi, je peux partager un scénario optimiste avec Christian en disant oui, mais il y a un été de tous les dangers à traverser. C'est-à-dire qu'en gros, on peut encore éviter des vagues de licenciements très importantes. Attention, la tendance, elle n'est pas bonne. Hein. Si vous regardez tous les secteurs, dans l'hôtellerie-restauration, on vous dit qu'il y a une entreprise sur quatre qui peut faire faillite. Dans le tourisme, une sur trois. Quand vous regardez ce que vous disent, par exemple, tous les tribunaux de commerce, ils voient arriver des vagues d'entreprises très en difficulté. Donc, attention. Mais pour moi, il y a un sujet, c'est qu'on manque de clarté, on manque de visibilité sur les dispositifs qui, entre la perfusion qui a été mise en place pendant le confinement et les grands plans de relance qui se préparent par secteur ou globalement, on manque d'un dispositif pour assurer la pérennité des entreprises. Et j'avoue que moi, j'aimerais bien avoir plus d'informations sur le chômage partiel, pour qui, pour quand, jusqu'à quand, pour quel secteur, etc. Ça, on commence à le savoir. Mais tous les allègements de charges, de cotisations, les loyers, etc., pour le moment, on sait pas trop à quelle sauce les entreprises vont être mangées ou pas. Et là, on a besoin vraiment de clarification.
Alors, Christian Chavagneux, il y a beaucoup de choses dans ce que je viens de vous dire, Emmanuel. Donc, sur l'emploi, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que vous dites le pire n'est pas devant nous, mais quand même, on voit bien que on entend, enfin, tout le monde nous dit, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont mettre la clé sous la porte malgré toute l'aide du gouvernement, et il va y avoir des licenciements par centaines de milliers. Qu'en pensez-vous ?
Non, je dis pas le scénario rose et le scénario principal. Je dis que la probabilité que ça se passe pas aussi mal que ce qu'on avait dit, à mon avis, elle a augmenté. Donc c'est pour moi, c'est déjà un facteur assez positif. Je voudrais réinsister sur ce qu'a dit Emmanuel. Oui, une augmentation faramineuse du nombre de chômeurs, mais les gens qui arrivent à Pôle emploi parce qu'ils se sont fait licencier, parce qu'ils ont dû quitter leur entreprise, c'est moins 20% par rapport à d'habitude. Et s'il y a une augmentation du chômage, c'est parce que c'est les gens qui d'habitude sortaient parce qu'ils retrouvaient du boulot. Ceux-là ne sortent pas. C'est moins 35% de sortie. Donc on a une augmentation du chômage parce que les gens qui avant étaient au chômage n'arrivent pas à en sortir. Pas parce que des gens qui avaient leur boulot l'ont perdu. Et ça, pour le coup...
il n'y a pas eu de licenciement trop pendant le confinement.
Oui, d'accord, ça veut dire que le chômage partiel a quand même joué son rôle, à savoir que les entreprises ne sont pas débarrassées de leurs salariés. Maintenant, je suis d'accord avec vous, Alexandra, je suis d'accord avec Emmanuel. Il y a deux incertitudes extrêmement fortes. D'un côté, les entreprises qui ont pu continuer à traverser la crise, elles l'ont fait avec un gros endettement supplémentaire. Or, il faut le rappeler, les entreprises françaises sont entrées dans cette crise avec un endettement largement supérieur aux autres pays européens. Donc déjà beaucoup de dettes, encore plus de dettes. Si demain, la priorité de tous les chefs d'entreprise, c'est de dire, moi, dès que je retrouve un peu de business, je me désendette pour assainir un peu ma situation. Et puis on verra après si j'investis et si j'embauche. Alors oui, il y aura un problème. Et deuxièmement, on sait bien que Emmanuel l'a bien dit, c'est que il n'y a pas de solution, il n'y a pas de one size fits all, comme on dit en anglais. Il n'y a pas une solution qui va à tous les secteurs. Il y a des secteurs qui vont mieux s'en sortir, qui s'en sortent déjà mieux, qui vont mieux repartir, et d'autres pour lesquels ça va être beaucoup plus difficile. Et pour ceux pour lesquels c'est difficile, alors oui, peut-être qu'on va avoir des problèmes d'emploi. On le voit dans la voiture, on le voit dans l'aéronautique. On a des gros secteurs avec des grosses masses d'emplois qui vont sûrement avoir des difficultés en termes d'emploi. Je pense à Air France, par exemple. On a vu les annonces de Renault hier.
Donc oui,
et il y a des incertitudes fortes. Oui, il y a des craintes, oui, il y a des risques. Mais attention, ces craintes et ces secteurs en difficulté ne sont pas toute l'économie française. Et à côté, moi, j'ai espoir, je ne dis pas malheureusement que ça va se réaliser, mais j'ai espoir qu'on puisse contrebalancer ces effets négatifs.
Alors moi, j'ai une question, Emmanuel Le Chypre, sur le chômage partiel. Le gouvernement a décidé qu'à partir du 1er juin, il y aurait un reste à charge pour les entreprises. Alors pas pour les salariés qui continuera à toucher, mais pour 100% de leur salaire. Mais pour les entreprises, il leur resterait 15% de la facture. Est-ce que ça, c'est de nature à fragiliser tellement, il y a des entreprises qui s'indignent, est-ce que ça, c'est de nature à fragiliser tellement les entreprises qu'elles pourraient du coup licencier ?
L'équilibre sur le chômage partiel, il est quand même extrêmement compliqué à trouver. On voit bien qu'effectivement, beaucoup d'entreprises sont encore en vie aujourd'hui grâce à ce chômage partiel. Là-dedans, on sait très bien qu'il y en a qui, de toute façon, n'arriveront pas à survivre malgré le chômage partiel et que d'autres, en revanche, y arriveront. On sait aussi On sait aussi que, alors ça, ça fait débat, c'est compliqué à dire, mais que le chômage partiel a été tellement généreux, entre guillemets, que bah, beaucoup d'entreprises aussi ont choisi cette solution en accord avec leurs salariés. Pas par confort, mais auraient peut-être pu faire autrement. Et il y a ça aussi dans l'esprit du gouvernement, c'est-à-dire essayer de durcir un peu les conditions pour limiter les effets d'aubaine. Mais il n'y a pas de secret. De toute façon, plus vous resserrez les conditions d'aide aux entreprises, que ce soit le chômage partiel ou les autres dispositifs,
en fait.
Voilà, plus les béquilles seront légères, et ben plus il y aura une proportion d'entreprises, oui, qui ne résistera pas et qui fera faillite.
Et en la même question, temps, c'est à la charge du contribuable. En réalité, c'est un équilibre
avec la
dette.
Mais il faut pas rêver. Si on allège les dispositifs d'aide, et ben oui, il y a plus d'entreprises qui feront faillite. Oui,
allez.
Ça, c'est sûr.
On a Isabelle qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Isabelle qui est au standard. Je vous souhaite la bienvenue, Isabelle.
Oui, bonjour à tous. J'ai juste une chose qui me sidère complètement pour être à la retraite et avoir travaillé dans un groupe qui était très solide.
Un groupe dans quel secteur ?
Multisecteur. je suis sidérée par le fait que les entreprises n'aient pas 2 voire 3 mois de trésorerie devant elles. Même moi, à la maison, j'ai de l'argent de côté pour les cas difficiles, les problèmes, l'achat d'une voiture ou des choses comme ça. Comment se fait-il que nos entreprises ne soient pas capables d'avoir une trésorerie devant elles ? Ça me sidère.
D'accord. On va poser la question à Emmanuel Le Chip, puisqu'il nous a dit qu'il avait croisé énormément de chefs d'entreprise cette semaine. Merci Isabelle pour votre question. Emmanuel.
Alors vous avez vraiment un pays à plusieurs vitesses. Clairement, les grands patrons qu'on a rencontrés, je peux vous dire que leur souci pour les semaines qui viennent, c'est pas la trésorerie. C'est pas la trésorerie, ils ont ce qu'il faut, c'est comment on se réorganise, c'est quoi le monde d'après, c'est quoi les opportunités, est-ce qu'il y a des boîtes à racheter, des nouveaux marchés, etc. Ils sont tous, et d'ailleurs c'est un, quand même, beaucoup de patrons sont positifs, ils sont pas dans l'abattement. Donc ça, les grandes entreprises, elles ont pas ce sujet-là. Après, vous avez tout un tas de secteurs qui, aujourd'hui, sont rentrés dans cette crise extrêmement fragilisés. Si vous prenez tous les secteurs qui prennent la crise de plein fouet, l'hôtellerie, restauration, tourisme, etc., c'est des secteurs qui avaient déjà été très affaiblis par les gilets jaunes, par les grèves, etc., et qui sont rentrés dans cette crise, les petits commerces, pareil, qui sont rentrés dans cette crise en difficulté. Et puis, la troisième explication, qui est spécifiquement française, c'est qu'on est dans un pays dans lequel, je vous le rappelle, on n'a pas ces entreprises de taille intermédiaire assez solides, on en a 2 fois moins que les Italiens, 3 fois moins que les Allemands, on a beaucoup de PME, et ces PME, elles sont extrêmement petites, et donc très vulnérables et dépendantes aux exigences de leurs donneurs d'ordre, les grandes entreprises. Et on leur met la pression, et là il y a un vrai sujet sur les grandes entreprises ne jouent pas le jeu pour permettre aux petites d'avoir une bouffée d'oxygène. Mais c'est tout ça qui fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas effectivement plus de 2 mois de trésorerie.
Oui, il y a aussi le sujet des délais de paiement qui a été un sujet majeur. Les délais de paiement qui s'allongent. Tout à l'heure, Emmanuel Le Chypre disait qu'il faudrait quelque chose pour renforcer justement les entreprises. Il s'intéressait à ce... Vous attendiez quelque chose sur les finances des entreprises, au-delà des plans de relance, des plans sectoriels, c'est ça, Emmanuel ?
Ah oui, moi je pense qu'il y a un été de tous les dangers à franchir. Et vous voyez bien que c'est le principal obstacle. Quand vous avez 4 salariés sur 10, c'est l'enquête Elab de cette semaine, 4 salariés sur 10 qui craignent de perdre leur emploi, comment vous voulez qu'ils aillent dans les magasins dépenser les 60 milliards d'épargne dont vous parliez tout à l'heure ? Il y a une énorme angoisse d'être confronté à une espèce de tsunami social à la rentrée. Et ça, il faut tout faire pour lever cette angoisse. Ça veut dire que, encore une fois, il faut rassurer les entreprises. Je termine en disant juste
Ça n'aura servi à rien
d'avoir dépensé 100 milliards pour que finalement une entreprise fasse faillite en septembre au lieu de faire faillite en juin. On a commencé à les aider, il faut aller jusqu'au bout, sinon ça n'aura servi à rien.
La relance, Christian Chavagneux, le ministre de l'économie Bruno Le Maire nous dit non mais ça va être, là on fait des plans sectoriels et puis on fera de la relance à la rentrée. Il est en train de consulter lui aussi des économistes pour savoir quelle relance. Vous attendriez quoi ? Est-ce que la rentrée c'est trop tard ?
Moi je suis comme Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF.
On a un scoop alors.
c'est très important, c'est ce qu'il nous a dit cette semaine, hein, au moment où François Hollande, en janvier 2014, était passé de la politique de la demande à la politique de l'offre, il avait dit « Haha, Hollande vient de tirer une balle dans la nuque de Keynes », se réjouissant. Et bien, et tout d'un coup, M. Roux-de-Bézieux se découvre qu'il faudra peut-être ressusciter Keynes. Effectivement, il nous a dit « La dette, c'est pas un problème. Oh, » le président du MEDEF, la dette publique, c'est pas... Il faut dépenser, que l'État dépense à fond. Le président du MEDEF nous appelle à avoir plus de dépenses publiques. Oui, moi, je crains que le plan de relance du gouvernement en septembre, ce soit un peu tard et que je suis d'accord avec Emmanuel. Il y a des entreprises qui vont jouer leur survie dans les 2-3 mois et c'est pas septembre-octobre, c'est maintenant tout de suite. Surtout si les conditions sanitaires obligent, on a peut-être pas de deuxième vague et qu'on peut relancer un peu plus vite. C'est exactement le moment, parce qu'on sait, les économistes nous ont dit que si vous relancez avec de la dépense publique à ce moment-là, l'effet multiplicateur, c'est-à-dire quand vous dépensez un euro de dépense publique, combien il y a de privés qui dépensent derrière, il est très très fort, très très fort maintenant, pas dans 6 mois, maintenant. Mmh. Et donc moi je plaiderais plutôt pour que les efforts gouvernementaux, ils soient faits maintenant et pas au mois de septembre.
Donc une relance pour vous, Christian, en direction des consommateurs, c'est ça, en direction des entreprises.
Le gros problème des entreprises, c'est les fonds propres. Parce que quand on a beaucoup de dettes, c'est pas grave d'avoir beaucoup de dettes si vous avez beaucoup de revenus pour payer votre dette. Les entreprises, c'est pas grave si vous avez beaucoup de dettes si vous avez des fonds propres. Les fonds propres d'une entreprise, c'est le socle, c'est les fondations. Et l'activité que vous développez, c'est la hauteur du building. Plus les fondations sont solides, plus vous pouvez supporter le grand vent. Et pour supporter le grand vent de l'endettement aujourd'hui, il faut que les entreprises aient plus de fonds propres. D'ailleurs, le gouvernement réfléchit un peu en disant bon, on vous a permis de décaler pour certaines entreprises le paiement des cotisations.
Ah, mais décaler, c'est toujours payer un moment.
Mais peut-être qu'on va les transformer. On va les transformer en fonds propres. Donc voilà, ça c'est un vrai clé pour. C'est une vraie clé.
Allez,
pour
vous reste 20 secondes, Emmanuel. Non,
là où il faut être sans ambiguïté, c'est que soutenir la demande aujourd'hui, c'est d'abord soutenir les entreprises et l'emploi. C'est pas distribuer des augmentations de salaire.
Et pour les petits revenus, ça se pose quand même, Emmanuel.
Alors sur les minima sociaux, je suis d'accord. Il va falloir inventer quelque chose, et notamment pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail.
C'est très important.
Ils vont être dans une situation extrêmement...
Vous voulez bien que ça soit le prochain débat, ça, alors
compliqué. Mais juste, il y a 3-4 figures sur l'emploi. Il y a les entreprises qui n'embauchent pas, il y a les entreprises qui se disent « je tiens avec le chômage partiel et si ça repart, je ne licencierai pas », et puis celles qui sont obligées de licencier. Si déjà, on permet aux entreprises qui voulaient recruter et qui ont gelé les recrutements de recruter, eh ben c'est très bien. Et si on permet à celles qui n'étaient restées qu'au stade du chômage partiel de garder les emplois, c'est encore mieux.
Allez, c'était quasiment 20 secondes. Le reste de l'actualité. Cette semaine, Christian, Emmanuel, on a quand même eu la proposition de la Commission européenne pour un plan de relance, justement. 750 milliards d'euros, on aurait les 2/3 en subventions. Le reste, ce serait des prêts. Tout ça, c'est une mutualisation de la dette entre les 27. Et donc, si ça se réalise, c'est historique. Hein. Les pays frugaux ne sont pas d'accord. Les Pays-Bas, l'Autriche, par exemple. Et bien sûr, la réaction est toute différente de l'autre côté des Alpes.
Ursula von der Leyen ha definito decisivo il momento storico attuale proponendo un piano di risanamento per le economie colpite dalla recessione, 750 miliardi di euro.
Buongiorno Bruce de Galza.
Buongiorno a tutti.
Vous êtes le correspondant permanent, quel accent, de France Inter à Rome. Alors l'Italie, on le sait, elle a beaucoup souffert de la pandémie, elle a beaucoup déploré aussi le manque de solidarité des 27, mais finalement, les Italiens seraient les premiers bénéficiaires de ce plan, hein, s'il est bien validé, et Rome recevrait plus que n'importe quel autre État membre. J'imagine, Bruce, que les réactions chez vous, elles sont plutôt positives.
Ah bah, il faut dire que l'on avait bien fait monter la pression ici avec une Italie eurosceptique en effet. L'an dernier, 30% des Italiens se disaient prêts à quitter l'Union européenne en pleine crise du coronavirus. La moitié de la population ne voulait plus de l'Union, c'était il y a quelques semaines. Alors est-ce que cela va changer? Eh bien en tout cas, le président du Conseil savoure déjà une grande victoire. Il est immédiatement parlé d'excellent signal de Bruxelles. Et c'est vrai que Giuseppe Conte y a toujours cru, hein, même si certains au sein de son propre gouvernement lui disait de laisser tomber. Alors je peux vous dire qu'en Italie, on respire un peu mieux, Alessandra.
Oui, c'était presque inimaginable, hein, il y a encore quelques semaines, une telle mutualisation, un tel résultat. Ça fait même taire les oppositions chez vous.
Eh bien oui, Matteo Salvini, le patron de la Ligue, le premier parti d'Italie, mais qui baisse dans les sondages, est absent, ou presque, il estime qu'il n'y a encore rien de concret. Mais la plus intéressante, c'est Giorgia Meloni, qui dirige l'autre parti d'extrême droite, et qui, elle, ne cesse de grimper dans les sondages. Elle reconnaît que quelque chose est en train de bouger en Europe. Il y a bel et bien un pas en avant. Celle qui taclait régulièrement et brutalement l'Allemagne ou les Pays-Bas reconnaît que l'Europe avance dans le bon sens. Tous les autres chefs de parti en Italie l'Italie sont satisfaits du plan européen de Silvio Berlusconi à Matteo Renzi, qui en profite pour tweeter « L'Union européenne bat les populistes, 750 milliards à zéro ».
Ah, bonne formule. Alors, sauf que Bruce, rien n'est encore gagné. L'Italie, en tout cas, elle ne devrait pas dépenser cet argent n'importe comment.
Ah bah oui, mais même cela, ça n'a pas l'air de faire peur. Il faut dire que Bruxelles rassure, pas question d'un retour de la Troïka comme en Grèce, même si les investissements seront suivis. Et Giuseppe Conte lui-même fait le tour de ses opposants, en quelque sorte, les frugaux. Il a parlé avec son homologue néerlandais pour le rassurer. L'Italie ne va pas profiter de la générosité de l'Union, mais va bien entamer un chemin vertueux de réforme qui bénéficiera à tous. L'Italie veut transformer son administration publique, moins de bureaucratie, réformer sa fiscalité, mieux lutter contre l'évasion, investir dans les infrastructures publiques et numériques. Le digital est très en retard en Italie, dans le développement durable aussi. Donc Rome veut convaincre les frugaux que cet argent sera correctement utilisé. Et ça aussi, ce serait un grand pas de franchi. Mais la vraie révolution, Alexandra, c'est qu'avec ce plan, s'il est adopté, l'Italie, qui a toujours été un contributeur net, recevra plus que ce qu'elle donnera à l'Union européenne. C'est une première, mais qui montre bien la fragilité du pays.
En effet, Bruce de Galzin avec nous depuis Rome. Merci à vous, Bruce. Merci au cher binôme Emmanuel Le Chip, Christian Chavagneux. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, le débat éco sur France Inter, dans le mag XXL. Dans 3 minutes, Sonia De Villers et son invité, des questions sur les travailleurs du CLIC au chercheur Antonio Casilli. Mais d'abord, ni travail, ni écran. On ferme les yeux et dans nos oreilles, c'est peut-être même mieux que les parcs et jardins, la baie.
C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris, et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin, ni même Hong Kong. Pas Tokyo, et il fait si chaud. Bienvenue sur la mer.
Clara Luciani qui reprend le titre de Métronomie, la baie.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Et voici venu notre dernier quart d'heure consacré à l'économie des médias, mitonné par Sonia De Villers. Bonjour Sonia.
La mitonneuse.
La mitonneuse. Bonjour, je ne sais pas comment vous l'écrivez. Sonia, votre invitée, c'est le sociologue Antonio Casilli, professeur à l'école Paris Télécom et chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales. Antonio Casilli, c'est l'un des meilleurs spécialistes du travail à l'ère numérique. Le confinement a provoqué une hausse phénoménale de notre consommation d'Internet. Toutes les plateformes, vous l'avez beaucoup dit Sonia, en sortent gagnantes, renforcées dans leur hégémonie économique et culturelle. Et pourtant, on ne le sait pas toujours, elles ne font pas travailler que des robots, hein.
Eh bien, loin de là, Alexandra, hein, le triomphe, la toute-puissance, l'autosuffisance de l'intelligence artificielle est au mieux un mirage, au pire un argument marketing pour masquer la réalité, c'est-à-dire une armée de travailleurs sous-payés qui sont employés par les géants du web. Les Twitter, les Facebook, les Google, les Amazon et autres Uber. Vous voyez, en fait, les robots ne remplacent pas les hommes. Au contraire, ils créent des centaines de milliers de micro-tâches que les humains doivent accomplir. Ces tâches, alors on en connaît quelques-unes, hein, les chauffeurs, les livreurs qui opèrent le lien physique entre le consommateur et le site web. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi beaucoup de métiers qui sont, eux, totalement invisibles, nouveaux, méconnus. Il faut imaginer, Alexandra, que derrière chaque application dont la technologie nous émerveille, il y a des gens qui aident les ordinateurs à reconnaître les images ou à trier des données. Aucune qualification pour cela, des rémunérations très faibles, beaucoup de précarité et malheureusement de plus en plus de foyers dans le monde qui en dépendent pour vivre. Pendant le confinement, vous le disiez, Alexandra, rien qu'en France, le trafic Internet haut débit a grimpé de 30% et même de 86% vers les sites, oui c'est fou, qui proposent de la vidéo. Toujours en France, l'utilisation de nos smartphones a bondi d'au moins 25% et celle des réseaux sociaux a carrément triplé en mars et en avril. Alors, quelles conséquences, hein, évidemment, c'est notre sujet ce matin pour ces travailleurs du clic. Question à Antonio Casilli. Je précise qu'Antonio Casilli a aussi publié l'année dernière au Seuil un ouvrage absolument remarquable intitulé « En attendant les robots ». Bonjour Antonio Casilli.
Bonjour à vous.
Merci de nous rejoindre ce matin sur France Inter. Alors Antonio Casilli, le confinement a vidé les villes. Qu'est-ce qu'il est resté dans ces villes désertes? Il est resté des livreurs à vélo, des invisibles rendus visibles d'un seul coup par la crise, des travailleurs toujours plus visibles, toujours plus nombreux, mais pas toujours mieux payés.
Oui, il y a eu avec les mesures de confinement, en France comme ailleurs dans le monde, un changement de la visibilité de certains métiers, surtout des nouveaux métiers créés par les plateformes numériques. Vous avez cité les livreurs. Les livreurs font partie de cette catégorie qu'on appelle les travailleurs du dernier kilomètre de la logistique. C'est ceux qui assurent le dernier pas en bout de la chaîne d'approvisionnement, et ces travailleurs se sont retrouvés dans une situation assez paradoxale. Dans l'espace public, ils deviennent visibles parce que visiblement, enfin dans le contexte des villes désertes qu'on a connues lors du confinement, effectivement ils étaient là et ils continuaient à assurer leur travail, mais en même temps les plateformes s'efforçaient de les invisibiliser davantage. En proposant par exemple, c'est le cas de Deliveroo en France, un service qui était présenté comme du contactless delivery, de la livraison de sans contact. Alors sans contact, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le client ne doit plus signer, ne doit pas plus apporter sa signature électronique. C'est sans contact pour le mangeur, pour le client, ce n'est pas sans contact pour le travailleur. Le livreur a dû continuer à s'interfacer avec, par exemple, le personnel des restaurants, à toucher des surfaces potentiellement contaminées pour accéder aux bâtiments et ainsi de suite. Bref, il y a eu une redistribution de la visibilité, mais aussi des risques pour la santé et des risques économiques. Parce que, encore une fois, il ne faut pas l'oublier, il s'agit de travailleurs qui se trouvent dans des situations de précarité, dans des situations de mauvaise réputation. rémunération et en plus souvent une protection sociale qui n'est pas adaptée à leurs exigences.
Antonio Casilli, il y a eu pendant ce confinement des appels à la grève virtuelle, des appels à la grève de la connexion pour les travailleurs de la technologie, en solidarité par exemple avec les salariés d'Amazon, mais aussi il y a eu des marches virtuelles. Est-ce que le numérique invente des nouveaux boulots, mais est-ce que le numérique invente aussi des nouvelles formes de contestation sociale ?
Alors, il y a eu des appels aux grèves virtuelles qui ne sont pas une nouveauté. À chaque fois qu'on lance une initiative de ce type, on semble redécouvrir quelque chose qui existe en réalité depuis 20 ans au moins. Donc ça peut paraître surprenant, mais on a une sorte de effet d'oubli à chaque fois. Ce qui s'est passé pendant le confinement est au contraire qu'il y a eu des marches et des grèves bien réelles. Par exemple, dans les entrepôts et dans les centres de distribution de Amazon. Et là, on s'est rendu compte que toute l'automatisation vantée par Jeff Bezos était tout à fait limitée, parce que pour pouvoir faire fonctionner ces centres de distribution, il faut bien, bel et bien, des êtres humains. Et si ces êtres humains n'ont pas, parce que c'était ça le cas, protections pour leur santé en termes de gants, gel hydroalcoolique, masques adaptés, ils décident de se mettre en grève. Mais encore plus intéressant, du moins pour ceux qui, comme moi, étudient ce sujet, il y a eu des grèves dans les rues de certaines villes pendant le confinement. Et je vous parle de grèves très suivies en Espagne contre les plateformes locales. Par exemple, c'est Glovo qui est le géant espagnol de la livraison. Et donc, on a eu des centaines de livreurs à vélo qui réalisaient des espèces de marches qui n'étaient pas des marches, parce qu'ils roulaient sur leur vélo pendant la livraison, non seulement en Espagne, mais aussi dans des pays d'Amérique du Sud qui ont été eux aussi concernés par les mesures de confinement, comme le Pérou, l'Argentine, mais même aussi au Guatemala, El Salvador, etc. Donc c'est quelque chose de vraiment novateur, surtout parce qu'il y a aussi des passerelles et des solidarités qui se créent entre ces travailleurs qui réalisent, parce qu'ils sont le dernier kilomètre de la logistique, un travail qui est bien physique, même si évidemment eux aussi participent de l'économie du clic, et de l'autre côté, effectivement, des travailleurs comme ceux qui étaient chez Amazon, mais le côté cloud et le côté data d'Amazon, qui, eux, par contre, réalisent ce qu'on peut appeler le dernier kilomètre de l'automatisation. C'est-à-dire, ils réalisent les dernières tâches nécessaires pour faire fonctionner ces systèmes soi-disant entièrement automatisés.
Alors, autre type de travailleurs, alors on va dire là aussi, les dernières tâches de l'automatisation, comme vous venez de les qualifier, des travailleurs du clic. Facebook vient tout juste de payer 52 millions de dollars à ses modérateurs, qui exigent des dommages et intérêts. La modération automatisée ne suffit pas, Antonio Casilli, à faire le tri dans le flot des meurtres, des viols, des tortures, des appels à la haine qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut des êtres humains. Comment ça s'est passé la modération pendant le confinement et après ce procès retentissant et lui aussi tout à fait nouveau?
Alors, la modération s'est passée mal parce que les grandes plateformes, je pense à YouTube, je pense à Twitter, je pense aussi, même si Zuckerberg l'a fait à son cœur défendant à Facebook, ont dû admettre au début des mesures de confinement qu'ils ne pouvaient pas assurer la même qualité de modération parce qu'ils devaient avant tout protéger la santé de leurs équipes de modération. Et donc, ils ont dû admettre que les intelligences artificielles laissées à travailler sans supervision humaine ne sont pas si efficaces que ça. Et ceci est quelque chose qui est visible sous les yeux de tout le monde. Enfin, je veux dire, parce que l'explosion, par exemple, du spam, des fake news et dans certains cas même de l'agressivité pendant le confinement est due pas vraiment au fait que les gens sont frustrés ou que qu'ils sont devenus plus méchants que d'habitude pendant le confinement, mais tout simplement qu'il y a moins de filtrage de ces contenus. Après, à côté de ça, la reconnaissance du travail et de l'importance du travail de ces modérateurs qui eux aussi assurent d'un certain point de vue un service qui se veut automatisé, l'importance de ce travail est reconnue non seulement par ce type d'annonces qui sont liées au fait que voilà, les équipes ne peuvent pas se rendre dans les bureaux de ces GAFAM, mais aussi par certaines décisions de justice comme celle que vous venez de citer. Alors, cette décision de justice au fait remonte à il y a des années, enfin, c'est-à-dire c'est l'aboutissement d'une action en justice, d'un recours collectif de plusieurs milliers, au fait c'est plus de 10 000 modérateurs, surtout aux États-Unis, qui avaient demandé un dédommagement parce qu'ils avaient subi un stress post-traumatique, un PTSD, donc c'est-à-dire un stress post-traumatique, qui veut dire tout simplement qu'ils avaient été exposés à des images si violentes et problématiques qu'effectivement ils avaient eu des séquelles de type psychologique. Donc c'est un dédommagement pour cela. Ça ne concerne pas les travailleurs qui sont exposés aujourd'hui aux risques pour leur santé, parce que, par exemple, dans certains cas, sont encouragés à se rendre sur leur lieu de travail. Là, je pense encore à Facebook, qui est mauvais élève, comme d'habitude. Facebook, depuis la fin du mois de mars, déjà, ou tout début du mois d'avril, avait commencé à encourager, et parfois encourager de manière pas subtile du tout, ses modérateurs à revenir au boulot, alors que les autres travailleurs de l'entreprise de Mark Zuckerberg étaient invités à rester tranquilles chez eux. C'est pour dire, d'une part, l'importance, l'essentialité de ce travail, mais en même temps, le fait que ces travailleurs si essentiels sont considérés comme des travailleurs qui peuvent être sacrifiés pour le profit.
Une dernière question, Antonio Casilli. L'application Stop Covid, hein, qui est destinée à tracer le virus, elle aussi, elle vient d'être promulguée et autorisée en France. Alors ma question, vous allez peut-être la trouver idiote, mais est-ce que l'intelligence artificielle, dans le cas de cette application Stop Covid, va faire mieux que les humains? Est-ce qu'elle va gérer tout ça à la place des humains, avec les humains? Comment ça se distribue, là, justement, les compétences?
Alors là, vous me posez une question à laquelle je dois répondre en annonçant déjà d'entrée que j'ai été parmi les opposants de cette solution française pour des tas de raisons, et je considère qu'elle est avant tout une manière pour réduire certains coûts qui sont nécessaires pour battre le virus. Historiquement, on a eu des équipes humaines de professionnels formés au contact tracing, c'est-à-dire au suivi des contacts. Ces personnes étaient payées et étaient reconnues. Et pour la France, évidemment, on a parlé de mettre en place des équipes de contact traceurs, mais on a décidé de d'accompagner leur action avec cette application, laquelle, franchement, a beaucoup. Enfin, elle n'est pas vraiment une solution d'intelligence artificielle. En fait, elle n'est pas intelligente du tout. Elle est presque magique, parce que on nous vend cette application comme quelque chose qui serait capable de calculer la distance de manière précise, alors que elle s'appuie sur le Bluetooth et donc c'est pas vraiment la technologie la plus précise du monde. Ensuite, il y a des problèmes de centralisation des données, ensuite encore des risques de déanonymisation des données, et encore on ne sait pas exactement quels sont les algorithmes qui permettront effectivement le traitement de ces données, parce que pour l'instant le débat public s'est concentré exclusivement sur un aspect qui est celui de la collecte.
Merci, merci à vous Antonio Casilli, merci à vous Sonia De Villers. Oui, on n'arrête pas l'écho, deuxième partie du magazine Grand Format, le nouveau front économique et social qui s'ouvre, nous sommes aux avant-postes. Avec vos questions de vie au boulot et les réponses de Sandrine Foulon, ce sera dans une vingtaine de minutes. Le déconfinement de la culture en zone verte, réouverture des théâtres dès mardi prochain. Le directeur du Théâtre de Paris, président de l'association pour le soutien du théâtre privé, Stéphane Hillel, sera en ligne avec nous. Juste avant 11h, une idée pour repenser le monde. Ce samedi, sur la tribune de Camille Cronier, l'économiste Patrick Artus, il veut augmenter les salaires. Mais avant cela, on continue de regarder l'économie se ranimer. Tiens, 3 semaines que les petits commerces ont rouvert, ça va comment? Vous pouvez mettre vos chaussures, on sort du studio.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Alors, boutique de chaussures. On va aller voir un peu les conséquences de ce confinement sur les commerçants les petits commerçants. Je suis devant une boutique de chaussures, je suis à Vincennes, près de Paris. J'ai mis mon masque pour pouvoir rentrer dans la boutique et je pousse la porte, c'est parti. Alors, déjà il y a le gel hein, à l'entrée, c'est le gel obligatoire. Hein. Alors, un peu de gel.
Bonjour.
Bonjour, Manuel Ruffez de France Inter.
Bonjour, monsieur Ruffez, bonjour. Robert Trinel.
Robert Trinel, vous êtes donc le propriétaire de...
Oui, tout à fait.
Du coup, vous avez réorganisé, là, vous avez rouvert, vous avez organisé. Qu'est-ce que vous avez mis en vitrine? Qu'est-ce qu'on a comme type de modèle?
Alors là, bien sûr, on va remettre en place tout ce qui est sandales, c'est-à-dire bout ouvert, arrière ouvert. On est déjà donc sur la période été, typiquement. Mais à côté de ça, toute la marchandise qu'on a reçue en janvier, février et mars pour la vente de mars, avril et un peu mai, eh bien on l'a en stock.
On peut aller voir?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà donc un peu notre stock ici, hein. Il est énorme. Hein.
On est dans votre arrière-boutique.
Tout à fait, l'arrière-boutique.
Et il y a des boîtes de chaussures.
Oui, il y a beaucoup de boîtes de chaussures.
Jusqu'au plafond, on peut le dire.
Jusqu'au plafond, et je vous mets au défi de trouver une place pour mettre encore une boîte dans ce stock. Hein. Il faut savoir que cette période de vente, c'est 50% de chiffre d'affaires de la saison qui n'a pas été réalisé. Ce qui veut dire que le stock, qui n'est plus adapté pour la période actuelle, on va être obligé de chercher un local pour pouvoir le stocker jusqu'au mois de janvier, février de l'année prochaine. Il va falloir payer la location, donc c'est un coût supplémentaire. Et puis, on n'est pas sûr que le produit qu'on a mis, je dirais, en stock, hein, va pouvoir être reçu favorablement lors de la prochaine saison, qu'il ne soit pas décoté. On a un risque quand même de perte d'environ 20% sur ce stock qui aura été mis de côté pendant pratiquement 9 à 10 mois.
Voilà, par exemple, et voilà notre chausseur qui a baissé son rideau. C'était le samedi 14 mars, comme quasiment toutes les boutiques de sa rue, sans se douter qu'il ne le relèverait que 2 mois plus tard. C'était donc le 11 mai et depuis, tout le monde scrute le comportement des consommateurs parce que la consommation, normalement, c'est un gros moteur de l'économie française. Alors ce matin, quel bilan? Le bricolage, ça a bien redémarré. Les fleuristes également, on en avait sans doute besoin. Achat nécessaire aussi, les vêtements des enfants qui ont grandi depuis l'année dernière. Mais il faut affiner, tout dépend de ce qu'on vend et où on le vend. Est-ce qu'il y a des moyens de transport? Est-ce que le centre-ville est vivant ou pas? Si vous voulez une estimation plus globale, elle n'est pas très réjouissante. Les chiffres d'affaires de ces petits commerces sont en baisse de 30 à 50% aujourd'hui. Et les boîtes à chaussures de Monsieur Trinel, c'est vrai que ça ressemble à une caverne d'Ali Baba, sauf que ça s'appelle un stock qui aurait dû être vendu.
Aujourd'hui, notre nécessité à couvrir les frais fixes qui n'ont pas été couverts représente grosso modo entre 20 et 22 000 euros par boutique. Pour récupérer cette perte qu'on a, puisqu'on n'a pas été couvert par le chiffre d'affaires, il faudra compter, à mon avis, entre 2 et 3 ans. Ou augmenter nos prix de 8 à 9% pendant un an et demi. Ce qu'on ne veut pas faire, parce qu'on ne veut pas non plus modifier nos prix de vente vis-à-vis de nos consommateurs et de nos clients. Donc, il va falloir espérer que le chiffre d'affaires va repartir d'une manière normale, avec un petit plus, pour pouvoir amortir justement cette perte réelle.
Vous êtes inquiet ?
Oui, je pense quand même, et on ne peut pas raisonnablement ne pas dire qu'il n'y a pas un minimum d'inquiétude. On est conscient de la difficulté qu'on va traverser, parce que là, ce n'est qu'un début. Hein. Là, pour l'instant, l'État nous a aidés. Les consommateurs, dès la rouverture, sont venus. Mais on s'aperçoit déjà maintenant, 15 jours après, que nous avons un léger essoufflement de l'appétence de ces consommateurs. On prévoit jusqu'à la fin de l'année une baisse d'environ 30% de notre chiffre d'affaires sur l'année 2020 par rapport à 2019. À 30% de baisse de chiffre d'affaires, on ne couvre pas nos frais.
Est-ce que vous avez peur vous-même d'être obligé de vous séparer d'un salarié, de salariés ou peut-être d'une boutique même?
Alors, c'est une bonne question. Bien sûr que c'est un crève-cœur. Moi, je suis dans ce métier depuis des années. D'ailleurs, pour que je continue à faire ce métier, il faut vraiment que je l'aie, comme on dit vulgairement, dans les tripes. Malheureusement, je serai dans l'obligation, pour des questions de sécurité pour les autres boutiques, de me séparer d'une ou deux boutiques avant la fin de l'année.
Alors, on est rue du Château d'Eau à Paris, à côté de la place de la République, et on cherche un fleuriste. C'est la boutique où on va aller.
Bonjour.
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 C'est avec vous, j'ai rendez-vous.
C'est avec moi, j'ai rendez-vous, oui.
Ça va?
Ça va,
bien,
on la main,
non. Moi, je m'appelle Carlos Morao, et j'ai deux points de vente. J'en ai un dans le 17e et un dans le 10e.
On peut voir, vous pouvez me dire ce que vous avez un peu sur vos étals là devant la boutique? C'est joli, du coup, ça fleurit toute la rue. Là.
Ah bah oui, en ce moment, c'est le géranium, c'est les petites plantes pour faire des jardinières, etc. Du pladenia, fuchsia, enfin, il y a plein de petites choses.
Et il y a une demande?
Oui, très forte. Parce que tous les jours viennent en même temps, forcément. Ils étaient impatients et ils sont, on peut dire, jetés.
Ouais. Précipité, ouais.
Ouais, précipité, ouais. C'est clair.
Ils avaient besoin de fleurir, ils avaient besoin de beauté un peu. De...
Ouais, et puis c'est comme nous, ils avaient besoin de recommencer à vivre, tout naturellement.
Quoi. Donc ça va redémarrer.
Ça va redémarrer très très vite.
La difficulté, vous le disiez, c'est de gérer le personnel, en fait, gérer les salariés.
C'est une grosse difficulté, ouais. Je pense que c'est la pire. Faire des plannings, essayer d'anticiper les absences, c'est très compliqué. Ouais.
Parce que là, vous en avez des absents.
Là, j'en ai 3 qui n'ont pas repris pour l'instant.
Maladie, charge de famille.
Voilà, exactement. Ouais.
C'est un tiers de vos salariés.
Quasiment, ouais.
Donc là, il faut faire tourner les boutiques.
Bah, on fait des journées à rallonge et puis on va à l'essentiel. On essaie de servir nos clients et puis voilà. Donc tout ce qui est préparation, tout ce qui est manutention, etc., bon, on limite un maximum.
C'est-à-dire que vous, par exemple, hier c'était un jour férié, vous avez fait quoi comme horaire ?
Hier, j'ai fait Rungis 4h30, 5h, 5h sur place à Rungis jusqu'à 22h le soir à Terne.
C'est quand même un peu dingue, non ?
Ah, si, on a des journées compliquées des fois. Ouais.
Il ne faudrait pas que ça dure. Il est bien placé pour observer tout ça, Francis Palombi, le président de la Confédération des commerçants de France, qui regroupe un total de 450 000 entreprises de commerce, des indépendants essentiellement. Bien placé aussi pour demander une régulation des promotions et un report des soldes, sous peine d'étrangler un peu plus encore le petit commerce.
Alors, l'état des lieux, il y a encore en France 600 000 entreprises de commerce indépendantes, donc il y a un potentiel existant, mais il se fragilise de plus en plus. Et bien évidemment, à la sortie de cette crise, les plus fragiles seront les premiers à tomber et les plus vulnérables. Il y en aura. Donc depuis le déconfinement, les promotions sont libres. Les grandes enseignes font du moins 70, moins 60, moins 50. Vous savez qu'un indépendant, par rapport à son modèle économique, à partir de 40, 42, 45%, il perd de l'argent. Je ne donnerai pas le nom, mais une grande enseigne de vêtements, à 80%, il gagne encore un peu d'argent. Parce que le coefficient multiplicateur de revente chez ces grandes enseignes, c'est 7, 8, 9, et un indépendant, lui, qui achète en quantité très raisonnable par rapport à son entreprise, à ses 1 ou 2 magasins, il multiplie par 2 et demi, 3.
Donc vous dites, pour sauver le commerce, il faut réguler ses promotions, repousser les soldes.
Il faut réinstaller des règles du jeu par rapport aux promotions. Par exemple, un mois avant les soldes, pas de promotion. Par exemple, un prix de référence, un mois avant les soldes. Plus comme avant. Voilà, ce serait un peu presque mon mot de la fin, plus comme avant.
Mais là, cette année, les soldes, on en fait quoi ? Le ministre de l'économie a annoncé qu'elles étaient repoussées.
Elles sont repoussées entre le 15 et le 20 juillet. Moi, je vous dis, je préfère que ça soit la dernière semaine de juillet, comme ça a été demandé, redemandé et re-redemandé. Ça va laisser plus de temps aux commerçants indépendants de reprendre l'activité de leur commerce au prix normal pour gagner de l'argent normalement, payer ses charges, payer son personnel, vivre quand même, parce que c'est un travail. Hein. Un salarié gagne sa vie par rapport à son travail et un commerçant, c'est pareil.
On peut aussi se poser la question de savoir si cette crise sanitaire va laisser une trace durable sur nos habitudes de consommation. La consommation, lui, justement, ça fait presque 30 ans qu'il l'étudie de près. Philippe Moati, le cofondateur de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Bien sûr, dit-il, cette crise va déplacer des curseurs.
Cinquième étage.
Pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire.
Déjà avant la crise, on avait une sorte de partition de la société française en deux composantes, une composante minoritaire, mais qui progressait en volume déjà avant la crise, qui marquait un certain nombre de réserves par rapport au modèle de consommation et nous disait, en tout cas dans les enquêtes, vouloir consommer moins, mais mieux. Et on avait observé une forte progression de cette part dans la population, y compris d'ailleurs au début du confinement, qui semble avoir provoqué, pour ceux qui étaient déjà prédisposés, une sorte de prise de recul par rapport aux limites du modèle d'hyperconsommation. Il n'en demeure pas moins que c'est probablement une minorité et qu'à côté de ça, ben, on a ce qu'on appelle à l'Obsoco un ventre mou dans la société française, c'est pas péjoratif, hein, qui reste plutôt à l'aise avec le modèle de consommation actuel et qui a vécu le confinement comme étant une privation de la consommation et qui aspire à revenir au monde d'hier, peut-être un peu réformé, mais fondamentalement sans remise en cause de ses fondamentaux, quoi. Et là, ben, on bute aujourd'hui à court terme là, sur les problèmes d'accès au commerce et on butera de plus en plus sur une contrainte de pouvoir d'achat qui va entraver ce désir de revenir à la consommation d'hier parce que ce choc de pouvoir d'achat qui est déjà observé hein, sur une part significative de la population risque de s'intensifier et il touche plutôt les populations qui sont, disons, au milieu ou en bas de l'échelle sociale, là où les pulsions consuméristes sont en moyenne peut-être les plus fortes. Donc ça va être difficile de gérer, disons, un écart croissant entre un vouloir d'achat qui s'est maintenu et un pouvoir d'achat qui, lui, va se contracter. Donc ça risque d'être mal vécu vécu. Et puis, souvenons-nous que la question du pouvoir d'achat et de l'accès au modèle de consommation universel est quelque part un des motifs qui a suscité le mouvement des Gilets jaunes. Donc, ils craignent que tout ça puisse alimenter une sorte de colère sociale qui pourrait dégénérer dans l'émergence de nouveaux mouvements sociaux.
Les Français retrouvent-ils le chemin des petits commerces ? C'était le reportage de Manuel Ruffez.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
On continue à prendre le pouls de la consommation. Après les boutiques indépendantes, les grands réseaux, habillement, cosmétiques, ce matin, deux invités avec nous et je les en remercie. Bonjour et bienvenue Brice Rocher.
Bonjour.
Vous êtes le petit-fils du fondateur Yves Rocher. Il y a 10 marques dans le groupe Rocher. Yves Rocher donc, et j'en cite une autre, c'est Petit Bateau. Bonjour et bienvenue à vous également, Jean-Jacques Salin.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Inditex France. Alors Inditex, il faut dire ce que c'est. Ce sont des marques comme Massimo Dutti, Pull&Bear ou encore Zara. Et c'est à vous, Jean-Jacques Salin, que je pose la première question. Le 11 mai, il y a 3 semaines, on a vu des files d'attente, vos magasins pris d'assaut. 3 semaines plus tard, que constatez-vous? On a entendu le dernier expert là dans notre reportage. Est-ce que vous constatez encore cet appétit de consommer ou bien est-ce que vous voyez peut-être déjà une inquiétude sur le pouvoir d'achat?
Non, je pense que l'appétit de consommer, il existe toujours. Après, tout dépend les magasins, tout dépend les gens, les Français aussi, comment ils ont vécu le confinement. Je pense que dans les régions plus du sud de la France, où le confinement a été peut-être plus tranquille qu'il ne l'a été sur Paris, l'appétit de consommer est peut-être différent. En même temps, nous avons pu continuer à vendre nos produits par Internet. Donc, on n'est pas dans une situation où on a le sentiment, je dirais, d'un écroulement complet de la distribution, de la consommation. Mais effectivement, il y a un ralentissement. Il est indéniable qu'il y a un ralentissement.
Vous mettriez un chiffre sur ce ralentissement chez Zara, chez, par exemple, on connaît la marque, donc allons-y.
Oui, non, alors chez Zara, le ralentissement par rapport aux ventes de l'année dernière, on se situe autour de moins 15, moins 20%, donc ce qui est quand même relativement important. Après, on n'a pas les inconvénients aussi des stocks, puisque ayant continué à vendre durant le confinement et ayant continué à vendre les stocks que nous avions en magasin, donc on n'a pas été obligé de faire des promotions nous amenant à brader nos produits. Donc, à la fois, on a une gestion des stocks qui nous a permis, durant le confinement, d'écouler à partir des magasins et d'envoyer à partir des magasins sur des colis online. Et en même temps, à la fin du confinement, on se retrouve avec un stock qui est moindre que ce que l'on pensait. Et donc, on aborde cette période avec une certaine sérénité, oui.
Brice Rocher, est-ce que vous, dans vos magasins, est-ce que vous avez la même sérénité? Et pour vous, le chiffre d'affaires? Moi, je citais pour le petit commerce, on nous dit 30-50%. Vous qui êtes plus gros, le chiffre d'affaires qui revient à la normale, pour vous, vous voyez ça quand?
Écoutez, plus que le chiffre d'affaires, moi, c'est la rentabilité de nos affaires qui me préoccupe. Parce que, bon, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais une affaire ne vole que si elle est rentable. Et force est de constater que ces 2 mois de confinement où nos magasins ont été fermés, nous avons subi des pertes considérables. Et le mois de mai sera tout aussi dégradé, puisque nous avons ouvert, mais partiellement, si j'ose dire, puisque nous avons ouvert à partir du 11 mai. Donc nous ne profitons pas pleinement du mois dans son entièreté. Et comme en plus nous sommes sommés de payer nos loyers et que nous avons des charges par ailleurs, la rentabilité de nos affaires s'en retrouve très fortement dégradée. Je pense que pour la première fois de son histoire, le groupe Rocher va perdre de l'argent cette année. Ça fait 60 ans que nous existons, c'est totalement inédit. Et voilà, et donc c'est plus ça qui me préoccupe que l'activité. L'activité en elle-même sur le mois de mai va être dégradée puisque nous n'avons pas rouvert à partir du 1er mai. Mais
les consommateurs, les consommatrices, vos clients, vous les voyez, si on doit mettre un chiffre, vous les voyez revenir à quel niveau là pour l'instant au bout de 3 semaines? C'est quoi le bilan?
Ils reviennent, mais vous savez très bien que nous sommes contraints par la capacité à recevoir nos clients en fonction du nombre de mètres carrés de nos magasins. Nous, si je prends la marque Yves Rocher, nous sommes plutôt sur des surfaces de 35 mètres carrés. Et donc, nous sommes en capacité de recevoir uniquement 3 clients en même temps, ce qui limite d'autant l'activité, forcément. D'autant plus que nous sommes une marque accessible, donc une marque de volume. Et si nous limitons le nombre de clients dans nos magasins, ça nous impacte de facto, quoi.
Jean-Jacques Salin, chez Inditex, vous dites, donc chez Zara, Massimo Dutti, vous dites que le e-commerce a pris le relais à un moment donné. Vous l'avez vu évoluer comment? Et est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qui va prendre encore de l'ampleur dans la vente de l'habillement?
Je pense qu'il ne faut pas opposer deux systèmes. Je pense que les deux sont complémentaires. On est dans une logique de multicanal. Le e-commerce, effectivement, dès lors que vous êtes chez vous et que vous êtes confiné, vous n'avez d'autre choix que de commander par Internet. Par contre, les magasins sont aussi un élément complémentaire à cette vente sur Internet. C'est-à-dire que le client a la possibilité de ramener son produit, de l'échanger, et puis, s'il ne convient pas, de pouvoir acheter autre chose. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une complémentarité à avoir. Et d'ailleurs, on voit très bien que toutes les grandes enseignes VPCistes, à un moment ou à un autre, reviennent aussi vers des magasins. Je pense que, de la même façon qu'il ne faut pas opposer les grands magasins au petit commerce ou l'Internet au grand commerce ou autre, je pense qu'on est dans un monde où le commerce est ouvert, que les modes de consommation changent, que les modes de distribution changent et qu'il faut s'adapter. Après, il est évident qu'aujourd'hui, le e-commerce a été un moyen, je dirais, palliatif à une situation à laquelle personne ne s'attendait.
Mais à quel niveau? Donc, ça a pris quelle forme de relais? Ça a été une explosion ou?
Bah, disons que ça a été une explosion par rapport à ce que l'on faisait habituellement. Oui, ça a été une explosion. Mais ça reste petit. Mmh. Dans le groupe Inditex, et les chiffres sont officiels et on est dans la moyenne du monde, ça représente 8%, 9% du chiffre d'affaires. L'essentiel du chiffre d'affaires est toujours réalisé par les magasins. Donc ça, faut en être conscient. Mais par contre, je pense que c'est un moyen complémentaire. Et l'autre avantage qu'il y a aussi sur le commerce, c'est ce que je précisais tout à l'heure, c'est la possibilité qui nous a été donnée de vendre notre stock magasin alors que ceci était fermé. Donc ça veut dire que dans chaque magasin, nous avions des équipes. Moi-même, j'ai été pendant un mois sur un magasin faire des colis avec mes collaborateurs. Et nous avions des équipes qui permettaient ainsi d'expédier à partir du magasin des produits directement. Donc on a eu une gestion des stocks qui a permis cela. Donc c'est vrai que je me mets à la place d'un petit commerçant. C'est beaucoup plus difficile pour lui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Il ne faut pas chercher à opposer les deux.
Brice Rocher, vous avez dit il y a quelques instants que pour la première fois de son histoire, et son histoire je crois qu'elle a 60 ans, votre groupe allait perdre de l'argent. Vous semblez plus inquiet, vous avez quand même près de 900 boutiques, vous avez 15 000 salariés chez Yves Rocher, 1500 chez Petit Bateau. Comment vous voyez les mois à venir quand on dit que c'est la première fois qu'on perd de l'argent? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des boutiques qui peuvent fermer? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un danger sur l'emploi?
Non, vous avez probablement entendu parler de la médiation qui est en cours avec les bailleurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est
ce qui vous inquiète, vous, ce sont les loyers.
Les commerçants et les bailleurs.
Oui, les loyers.
Oui, parce que les loyers, si vous les payez plein pot alors que votre magasin est fermé, ça pose un vrai problème. En fait, je vais vous dire, cette médiation, d'ailleurs, qui est à cours, pour moi, d'abord, je trouve que c'est une mascarade, ça fait plus d'un mois qu'elle dure. Et puis, l'accepter, ça constituerait une renonciation par les locataires à leurs droits les plus indiscutables. Il y a quatre raisons qui fait que ce truc-là ne vole pas. Économique, juridique, politique et de bon sens ou de faisabilité. D'un point de vue économique, quand il n'y a pas d'activité, le propriétaire, il est censé assumer le risque de l'immobilier en ne percevant pas les loyers. Mmh. Et les commerçants, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils subissent les pertes considérables sur frais et sur stocks qui résultent de cette inactivité. Juridiquement, le bail, c'est un contrat qui permet à un commerçant d'obtenir la jouissance d'un local commercial pour recevoir des clients afin d'exercer son commerce. La contrepartie de cette jouissance, c'est le paiement du loyer. Et cette contrepartie monétaire, elle n'est due que dans la mesure où l'obligation principale est exécutée.
J'entends bien sûr votre raisonnement. Je sais que c'est un bras de fer et qu'en effet, il y a cette médiation. Mais est-ce que vous êtes en train de nous dire, nous qui observons ce combat, est-ce que vous êtes en train de nous dire que si vous n'obtenez pas satisfaction, là, votre modèle économique est en péril et que là, il y a des boutiques qui ferment et que là, il y a de l'emploi en jeu? Est-ce que c'est ça votre discours aujourd'hui?
La troisième raison, elle est politique. Nous représentons les commerçants, l'ensemble des commerçants en France, nous représentons 2,6 millions d'emplois répartis sur l'ensemble du territoire. Les foncières, c'est moins de 5 000 emplois. Concrètement,
les foncières sont vos bailleurs.
Nos bailleurs, exactement. Concrètement, si le loyer doit être payé plein pot, la seule variable d'ajustement, elle est sur l'emploi. C'est là, il y a deux charges principales dans un magasin. C'est le loyer et la charge salariale. Donc, si le loyer est payé point pot, la variable d'ajustement, elle est sur l'emploi. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi un sujet politique. C'est presque même un scandale d'État. Mmh. Et puis après, il faut faire preuve de bon sens. Cet échec, pour moi, de la médiation, il n'était pas inéluctable puisque certains bailleurs, comme la compagnie.
Pour vous, c'est déjà un échec?
Ah oui, je pense que c'est un échec. Et je peux vous dire que certains bailleurs ont renoncé à percevoir leur loyer. Mmh. Donc ces quatre raisonnements-là, pour moi, ils annulent de facto. Et je vais vous dire un truc.
Alors oui.
Ce qui est d'autant plus que l'échec de la médiation, il est intervenu malgré les avancées faites par les locataires. Protection des bailleurs les plus fragiles en finançant un fonds de solidarité. Et chargé de leur assurer leur loyer.
Brice Rocher,
je tiens à le dire, c'est important.
Non, mais j'entends.
Nous soutenons les bailleurs les plus fragiles. Mmh. Mais force est de constater que il y a une fin de non-recevoir qui est opposée à cette reconnaissance.
J'ai une question pour Jean-Jacques Salin qui est avec nous. Quand même. Allez-y, finissez.
Oui, allez-y. Oui. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, les redressements judiciaires s'accumulent dangereusement. Alinéa, NAFNAF,
oui, mais là on parle du groupe Rocher.
Parachop.
Ouais. On parle du groupe Rocher.
Oui, ben d'accord. Ouais. Et alors, je représente tous les commerçants.
D'accord.
Et bon. Je représente l'emploi en France. 2,6 millions d'emplois. Je défends les 2,6 millions d'emplois, y compris les miens.
Jean-Jacques Salin, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit sur les bailleurs. Sinon, j'ai une question sur la date des soldes qui devrait être repoussée en juillet. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée?
Oui, alors je vais donner mon avis quand même sur les bailleurs. Je pense que Monsieur Rocher a raison de mettre en avant la difficulté qu'on rencontre avec les bailleurs actuellement, parce que c'est vrai que aujourd'hui le modèle économique d'un magasin, et non pas d'une société, mais déjà d'un magasin, réside en un équilibre entre le poids de loyer et les frais de personnel. Si effectivement on a des loyers à payer dans des périodes durant lesquelles on n'a pas eu d'activité, l'équilibre économique est tout à fait rompu. Donc il y a un vrai problème, et je pense que effectivement, la médiation telle qu'elle a été faite aujourd'hui, et M. Rocher a raison, n'apporte absolument pas de solution concrète, rationnelle, logique à ce problème. Et concernant les dates des soldes, ben, je pense que oui, la date des soldes, elle doit être repoussée, puisque derrière, on a une activité qui est repartie avec du retard. Elle doit être repoussée, qu'elle se situe autour du 15 juillet, 20 juillet, je pense que c'est tout à fait légitime. Bon, nous concernant, on a un modèle économique avec une production qui est essentiellement européenne. Donc, on a des stocks qui sont pas si importants que cela. Donc, on aborde les soldes avec, je dirais, là encore, une certaine sérénité. Bon, c'est une situation compliquée que l'on vit. Je pense qu'il faut avoir la tête sous les épaules, faut avoir la tête froide. Et puis, surtout, essayer en concertation avec les partenaires sociaux à prendre les bonnes solutions. Moi, il y a un point sur lequel je me permettrai d'insister. C'est le port du masque. Si vous me donnez
allez-y.
Oui, parce que je trouve que aujourd'hui, on a une situation en France qui est assez anachronique. Puisque derrière, nos salariés, dans nos magasins, ils doivent être protégés, et donc, de ce fait, eux-mêmes, ils portent le masque pour les clients qui rentrent dans les magasins. Par contre, je pense qu'on aurait dû avoir une obligation du port du masque dans tous les lieux recevant du public, sans exception.
Vous
que l'on soit
à quoi
un commerce. Ouais. Ben, je dirais qu'aujourd'hui, le fait que le choix soit donné à un client qui rentre dans un magasin, dans certaines sociétés ou dans... de mettre ou pas le masque, je trouve que c'est pas civique.
Alors...
Oui, je pense qu'il aurait fallu rendre le masque obligatoire.
Brice Rocher, le masque obligatoire, d'un mot, pour vous aussi, ça serait une nécessité? D'un mot.
Écoutez, là en ce moment, moi je suis en train d'essayer de privilégier le commerce, quoi. Donc tout ce qui est un frein au commerce me paraît préjudiciable pour l'activité.
Merci.
Après j'entends le point civique, hein, bien évidemment. Et je pense qu'il faut appeler l'ensemble des Français à porter le masque. C'est important pour endiguer cette crise sanitaire sans précédent. Donc là je souscris à ce que dit Jean-Jacques Salin, bien évidemment.
Brice Rocher, le PDG du groupe Rocher, Jean-Jacques Salin, le DG d'Inditex France, merci d'avoir été sur France Inter. À venir dans la prochaine demi-heure, Sandrine Foulon et ma vie au boulot, le directeur du Théâtre de Paris Stéphane Hillel, l'économiste Patrick Artus, c'est le Mag Éco grand format sur France Inter. As you get so tired.
Titre du groupe américain Other Leaves, Hey Hey, Hey Hey, mais là voilà, bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Les questions des auditeurs, on commence avec une auditrice, Marie-Hélène. Son entreprise lui a imposé de prendre des RTT pour le pont de l'Ascension et le lundi de Pentecôte alors qu'elle est en chômage partiel. Ces RTT vont-elles lui être décomptées ?
Marie-Hélène, c'est l'employeur qui décide quand vous êtes en activité partielle et avec les nouvelles ordonnances Covid, il a le droit de vous imposer temporairement et sans rien demander à personne jusqu'à 10 jours de RTT. Peut-il le faire pendant un jour férié, sauf avis contraire de l'accord d'entreprise ou de branche qui prévoit que le lundi de Pentecôte ne doit pas être travaillé, l'employeur peut vous obliger à poser une RTT pendant ce jour de solidarité. Il n'a pas le droit de le faire pour le jeudi de l'Ascension, mais bien pour le vendredi du pont. Donc oui, Marie-Hélène, ces jours vous seront décomptés.
Stéphane, qui télétravaille, réagit à votre réponse la semaine dernière sur les tickets resto. Son employeur lui a aussi supprimé, mais cette fois-ci par équité envers les employés de l'entreprise qui n'ont plus droit à la cantine. Est-ce qu'il a le droit de faire ça ?
Alors non, même réponse que la semaine dernière, vous télétravaillez, vous avez droit à vos titres restaurant, c'est un avantage qui résulte d'un usage ou d'un accord, et si votre employeur décide de le supprimer par équité ou parce qu'il rencontre des difficultés avec la crise sanitaire, il peut dénoncer et renégocier ce droit, mais il faut qu'il le fasse avec les syndicats, pas de son propre chef. L'équité, ce serait d'accorder des tickets resto aux employés qui n'ont plus accès à la cantine et qui télétravaillent comme vous, Stéphane, mais là, ça coûte évidemment un peu plus cher.
Une question importante de Claude. Avec l'accord du CSE, le comité d'entreprise, son employeur a annulé les augmentations promises pour cette année et annoncées en entretien, y compris la part variable qui dépend de critères individuels. Claude vous demande, est-ce que tout ça est bien légal ?
Mais les avocats que j'ai interrogés expliquent que le CSE n'a pas à intervenir sur les augmentations de salaire, qu'elles soient individuelles ou collectives. Il n'a pas à donner son avis, surtout si ces hausses reposent sur des critères précis, qu'elles ont été négociées et que les salariés en ont été informés. L'entreprise ne peut pas revenir sur ces augmentations. Maintenant, Claude, si les syndicats majoritaires ont signé un accord de performance collective avec la direction, il faut savoir que ce type de texte autorise beaucoup de souplesse, comme augmenter le temps de travail sans hausse de la rémunération ou geler les salaires et les augmentations, l'employeur n'a même pas à justifier de difficultés économiques. Avant le Covid, les accords de performance collective se portaient déjà très bien, ils vont encore mieux depuis.
Karine, qui est consultante en informatique, a refusé une rupture conventionnelle alors qu'elle était entre deux missions. Son employeur l'a licenciée pour faute grave. Karine vous demande si elle a des recours.
De toute façon, Karine, il faut demander conseil à un avocat ou à un défenseur syndical et c'est toujours le juge qui, au final, apprécie la situation. Ce qui est certain, c'est qu'un employeur ne peut pas vous licencier pour faute grave après que vous avez décliné une rupture conventionnelle. D'autant plus si vous pouvez apporter la preuve de ce refus. Un employeur dispose de 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance d'une faute pour engager des sanctions disciplinaires. Vous reprochez des faits qui remontent à votre dernière mission d'il y a 4 mois risquent de paraître très suspects aux yeux du juge. Mais encore une fois, c'est lui qui décide.
Sandrine, l'actualité de la semaine, c'est qu'on découvre les abus du chômage partiel. Le gouvernement menace de ne pas être tendre avec les entreprises qui fraudent. On écoute la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Il y en a qui se sont trompés de bonne foi. Eh bien, on va juste leur demander de régulariser, il faut faire confiance a priori. Puis il y en a, c'est de la fraude. Donc il y a des sanctions administratives qui peuvent être fortes, financières aussi, voire pénales. Donc je le dis quand même aux employeurs, régularisez avant qu'on vienne, parce que si vous régularisez pas et que manifestement c'était intentionnel, ça peut être très coûteux.
Donc ça devrait passer pour celles qui sont de bonne foi, mais les vraies entreprises resquilleuses, elles risqueront gros, Sandrine ?
Oui, pour éviter des licenciements massifs, l'exécutif a choisi d'aller vite, de dire oui d'abord et de contrôler ensuite. Maintenant, c'est l'heure de vérité, l'éventail des sanctions est large, c'est ce que confirme l'avocat Joël Granger du cabinet Flichy-Granger. Ça va du simple remboursement des aides versées au redressement URSSAF, à l'interdiction de toucher des aides pendant 5 ans, jusqu'aux sanctions pénales et à la prison. Les salariés, eux, ne risquent rien, ce sont les entreprises qui fraudent en leur demandant de travailler tout en encaissant l'aide de l'État. D'ailleurs, des salariés écœurés pourraient se retourner contre elles et exiger de toucher l'intégralité de leur salaire. Alors c'est vrai, les inspecteurs du travail ne vont pas pouvoir contrôler le million d'entreprises qui a bénéficié de l'activité partielle, mais si un salarié, par exemple, était surpris à répondre à un mail professionnel alors qu'il est en chômage partiel, l'entreprise sera sanctionnée. À partir de lundi, l'activité partielle sera durcie, les entreprises ne seront plus remboursées intégralement, ce sera moins incitatif. Mais contre cette fraude à l'argent public qui nous pénalise tous, il faut plus que ça, il faut une bonne dose de civisme.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
On passe à la culture qui se déconfine à partir du 2 juin. Et donc en zone verte, les théâtres vont rouvrir avec obligatoirement un masque. Bonjour Stéphanie Lel.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes aussi le directeur du théâtre de Paris et vous êtes le président de l'association pour le soutien du théâtre privé. Ce qu'on a entendu de ces mots dans la bouche du Premier ministre, est-ce que pour le théâtre privé, pour vos théâtres, ça représente le bout du tunnel ?
Non, pas encore. Il faut pas exagérer. Ce n'est pas le bout du tunnel parce que je crois que l'État, le gouvernement a voulu envoyer un signe fort en disant que, je dirais d'une manière théorique, on peut rouvrir. C'est-à-dire que quand vous mettez en face toutes les mesures sanitaires tout à fait légitimes qu'il faut mettre en face de nos réouvertures, on s'aperçoit que c'est malheureusement pour beaucoup d'entre nous pas possible. Mais c'est un signe qui est envoyé que nous allons vers la réouverture. Je dirais que ceux qui peuvent, le 22 juin, qui pourraient jouer, c'est dans une salle, je prends un exemple, hein, mais c'est dans une salle de 300 places, on mettrait 30 personnes disséminés dans la salle et qui assisterait à un spectacle avec un seul acteur dans des rideaux noirs. Voilà, grosso modo, c'est ça qui sera possible à partir du 22 juin, mais du 21 juin. Mais c'est très théorique, voilà. Mais
et dans ces conditions-là,
l'État
surtout,
en est parfaitement.
Ouais. L'État en est conscient.
Oui, l'État en est parfaitement conscient, puisque nous avons eu quand même la garantie que justement, je vous entendais en parler à l'instant, mais toutes les mesures d'activité partielle seront maintenues au moins sur l'été. Voilà.
Donc si je vous écoute, ça veut dire que en fait, les théâtres ont le droit de rouvrir, mais que nombre d'entre eux, vos théâtres, ne vont pas rouvrir, les théâtres privés, les salles, ça dépendra de leur taille.
Ça va dépendre, ça peut dépendre de la taille, c'est surtout que d'abord il y a un temps incompressible, si vous voulez, entre le moment où on décide de rouvrir et où on est en capacité de présenter un spectacle. Bon, soit temps de répétition, de reprise, de remettre en route la machine. Aujourd'hui, si vous voulez, on a aussi un problème, j'en cite un parmi plein d'autres. Aujourd'hui, nos logiciels de billetterie, quand on fait du placement numéroté, sont incapables, si vous voulez, de laisser un fauteuil libre entre un groupe de personnes, enfin, entre un même groupe de personnes. Si vous venez à deux, vous venez à quatre, il faudra laisser un ou deux fauteuils libres après, et les logiciels de billetterie ne savent pas le faire. Ce serait peut-être un développement qui prendrait des mois. Donc on se heurte à ce genre de difficultés qui vont d'ailleurs être aussi pour les locations de la rentrée, si on imagine que à l'horizon de septembre ou d'octobre, on sera en capacité de rouvrir.
Est-ce que...
Véritablement, voilà.
Bien sûr. Donc la question, elle est pour tout le monde pareil. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes particulièrement inquiet ? Est-ce qu'il va y avoir des têtes qui vont pas pouvoir tenir le coup malgré l'aide de l'État ?
Je pense que oui, on va avoir certainement les plus fragiles d'entre nous vont risquent d'avoir de grosses difficultés. On fait tout pour les accompagner. Le fonds d'urgence qu'on a initié avec la STP, le fonds de soutien dont vous parlez, dont que j'ai le privilège de présider, on a mis en place un fonds d'urgence qui vient compléter les mesures de droit commun, dont l'activité partielle, bien sûr. Je suis inquiet parce que la période critique, elle va commencer. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on va rouvrir, il faudra bien que ça s'arrête un jour, en effet, l'activité partielle, c'est le moment où, en fait, on était comme un planeur, comme ça, dans le ciel, depuis le début du confinement, avec les aides, avec l'activité partielle. Là, il va pas falloir se rater à l'atterrissage. Et c'est le moment le plus critique, parce que c'est le moment où ça va être la reprise d'activité, dans des conditions sanitaires qu'on ignore encore pour la rentrée. Et surtout, est-ce que le public, psychologiquement, aura envie d'aller dans les salles de théâtre? Voilà, c'est aussi une grande question qui se pose, une grand point d'interrogation. On a deux grands points d'interrogation qui sont: est-ce que, en effet, il n'y aura pas une reprise de l'épidémie en septembre-octobre, mais ça, comme nous tous, mais on a cette inquiétude. Mais il y a aussi l'inquiétude de dire, est-ce que, dans quel état psychologique nos concitoyens nous sommes tous, et est-ce que nous avons, moi oui, mais c'est mon métier, est-ce qu'on a envie d'aller dans une salle de spectacle? Ben voilà, c'est une vraie question.
On espère en tout cas vous y retrouver. Merci Stéphanie Lel, présidente de l'association pour le soutien du théâtre privé. Merci d'avoir été sur France Inter.
Working hard and getting on, still not getting paid. Stay low, keep brave. Woke up in a country who refused to hold your hand. Kept falling for narcissists to insist you call the man. You work late for a job you hate, but you never fit the plan. Stay low, keep brave. I love you, my strange girl, my lonely girl, my angry girl, my brave. I love you, my strange girl, my lonely girl, my angry girl, my brave. Build yourself a garden and have something to attend. Cut off all relations cause you could not stand your yourself a socialist to have something to defend. Oh, young girl, please don't bullshit me. I love you, my strange girl, my lonely girl, my angry girl, my brave. I love you, my strange girl, my lonely girl,
Strange Girl, la chanteuse de folk londonienne Laura Marling.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Camille Cronier.
Alexandra, bonjour à tous.
Tous les samedis, vous faites monter un invité sur votre tribune, Camille. Alors, qui nous livre son idée pour repenser le monde aujourd'hui ?
Un homme qui vous parle obligation, monnaie, actif ou déficit, comme d'autres parlent foot, avec en plus une tchatche qui rend la chose encore plus naturelle et parfois un peu déconcertante, je l'avoue. On le rangerait volontiers du côté des puissants, avec son poste de chef économiste à la Banque internationale de financement Natixis et sa carte de membre au conseil d'administration de Total. D'autant que le monsieur, à l'oreille du président, il déjeunait il y a 15 jours à peine à l'Élysée, avec 10 autres économistes, dont une seule femme. Saumon sauvage au menu, mais c'est de beurre dans les épinards qu'il va nous parler aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Patrick Artus.
Oui, bonjour.
Votre idée pour repenser le monde, c'est d'augmenter les bas salaires dans tous les pays de l'OCDE. Vous voulez en finir avec ce que vous appelez l'austérité salariale.
Oui, c'est le livre que j'ai écrit chez Odile Jacob qui est avec cette idée. Si on prend l'ensemble de l'OCDE, et pas certains pays spécifiquement comme la France, une des caractéristiques très très centrales depuis 30 ans, c'est que la part des salaires dans le revenu national a diminué. Ce qui est la même chose que de dire que les salariés n'ont pas reçu les gains de productivité auxquels ils auraient eu droit. C'est particulièrement criant aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays en Europe. Et donc, évidemment, dans ces pays, le remède de politique économique très simple, c'est d'augmenter les bas salaires. 40% des Américains ont le même pouvoir d'achat exactement qu'il y a 30 ans, ce qui est absolument incroyable. Donc voilà, ce remède s'impose, il me semble, si on prend l'ensemble de l'OCDE.
Mais donc vous ne mettez pas la France dans le même panier que, si je vous cite, les États-Unis ou le Japon ?
Alors il y a une bizarrerie, avant cette bizarrerie, qui est la France et l'Italie. Parmi tous ces pays, en France et en Italie, on n'a pas eu de déformation du partage de revenus au détriment des salariés. C'est-à-dire que la part des salaires dans le revenu national est la même qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Sans doute nous avons un pouvoir syndical plus fort, sans doute le salaire minimum a évité qu'il y ait de très bas salaires comme on l'a dans d'autres pays. Et donc on ne peut pas appliquer en France le même remède simple finalement qu'on pourrait appliquer aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les candidats démocrates à l'élection présidentielle suggèrent une forte augmentation du salaire minimum, c'est parfaitement pertinent. En France, on ne peut pas faire ça. Et évidemment, c'est une complication pour la politique économique parce que on détruirait énormément d'emplois peu qualifiés. Et donc il faut, si on veut augmenter les bas revenus en France, trouver d'autres instruments que la hausse globale des bas salaires qu'on peut utiliser à nouveau dans la plupart des autres pays de l'OCDE.
Alors quels instruments on peut trouver ? Parce que vous êtes donc pour augmenter les bas salaires, vous n'êtes pas, en ce qui concerne la France, pour augmenter la dépense publique, ni taxer plus, et alors surtout pas les riches.
Je crois que j'ai du mal à comprendre la fascination d'un certain nombre d'intellectuels français pour la taxation. On a des inégalités de revenus en France avant les politiques redistributives, ce qu'on appelle les inégalités primaires, qui sont très élevées. Mais ça ne vient pas du tout, on n'est pas du tout dans le modèle américain, ça ne vient pas du tout des hauts revenus, ça vient de ce qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois. Il y a 65% des Français en âge de travailler qui ont un emploi. Alors que si vous allez en Europe du Nord, vous êtes entre 75 et 80%. Imaginez ce qu'on pourrait faire si on avait 10% en plus des Français qui avaient un emploi. On aurait des excédents budgétaires, on pourrait augmenter plein de dépenses publiques, il n'y aurait plus de chômage. Donc je pense que la réflexion centrale en France ne doit pas être une réflexion sur la taxation des plus riches, qui est déjà très élevée. On a les politiques redistributives les plus généreuses de tout l'OCDE. La réflexion doit se concentrer sur la façon d'augmenter le nombre d'emplois. C'est les politiques de l'emploi qui doivent nous concentrer. Alors qu'aux États-Unis, à nouveau, il y a une grande légitimité à réfléchir aux plus riches, à la taxation, à la redistribution. Mais il faut comprendre que le cas français est différent et que notre vrai besoin de politique économique, c'est d'amener davantage de Français dans un vrai emploi.
Il a réagi comment à tout ça, Emmanuel Macron ?
Avec ma dernière proposition ici, je pense qu'il est tout à fait d'accord. Il faut voir le cercle vicieux.
Il est d'accord pour ne pas taxer les plus riches, par exemple ?
Écoutez, demandez-lui. Je crois qu'il a fait savoir clairement qu'il était... Enfin, les plus riches sont... de pas taxer, vous exagérez. Les plus riches sont déjà les plus taxés de tout l'OCDE. Et on a une fiscalité du capital qui a été changée et réduite par Emmanuel Macron, mais qui est toujours plus forte que celle de tous les autres pays de l'OCDE. À nouveau, je crois qu'il faut comprendre le cercle vicieux. Si on veut redistribuer plus, on va monter les impôts. Si on monte les impôts, on va détruire des emplois. Il y en aura encore plus d'inégalités. Nos inégalités, elles sont en bas. Hein, c'est les petits boulots, c'est les précaires, c'est les CDD courts, c'est les intérimaires dont la moitié viennent de perdre leur travail avec la crise. Donc faut se concentrer sur les vraies inégalités qui sont en bas de l'échelle de revenus en France. Hein, je crois que c'est là qu'il faut mener des politiques très importantes.
Merci beaucoup Patrick Artus. Et donc si on veut en savoir plus, on lit votre livre donc paru la semaine dernière, 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir, ou Discipliner la finance, ça c'était sorti il y a un peu plus longtemps. Et puis Alexandra, pour ceux qui veulent regarder dans l'autre direction, hein, il n'était d'ailleurs pas invité à l'Élysée, lisez ou écoutez l'économiste Gabriel Zucman ou tiens, Éloi Laurent qui sera avec nous la semaine prochaine.
Merci Camille. Oui, Éloi Laurent qui sera avec vous la semaine prochaine, ça sera Yves Decan aussi qui sera aux manettes du Mag Éco. D'ici là, dans une semaine, rendez-vous, mais d'ici là, prenez soin de vous.